le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 30 mai. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, première crise à gérer pour la nouvelle ministre des Sports. Après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions de football samedi, réunion ce matin au ministère. Alors qu'hier soir, la rencontre Saint-Étienne-Auxerre s'est finie en plein chaos après la relégation des Verts. Nous sommes sur place dès le début du journal, Anaïs, après les autres titres.
Acheter des armes au niveau européen. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la question n'est plus taboue. Elle sera discutée au sommet qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles. Un service de soins pour personnes âgées en cours de fermeture en plein Paris. Et puis encore groggy après 2 ans de pandémie, le théâtre français en fête ce soir, cérémonie des Molières avec du public.
Et nos invités ce matin, Léa, à 7h50.
Oui, les Européens vont-ils se diviser? En effet, 3 mois après le début de la guerre en Ukraine, et alors que s'ouvre ce nouveau Conseil européen, les 27 face au risque de la division et de l'impuissance. On en parle avec l'ex-premier ministre italien, président de l'Institut Jacques Delors. Enrico Letta sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. À 8h20, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, l'APHP. C'est Martin Hirsch qui sera à notre micro. Et vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. Après Metz et Bordeaux, l'adieu à la Ligue 1 de Saint-Étienne. Les Verts relégués en plein chaos, battus au tir au but sur leur terrain par Auxerre en match barrage retour. Un partout à la fin de la partie, comme au match aller. Auxerre retrouve l'élite du football français 10 ans après sa relégation. Mais surtout, un peu à l'image de cette saison sur les terrains de Ligue 1, de Montpellier à Nice, en passant par Rennes ou Nantes. Cette dernière rencontre se termine avec des débordements. Cédric Guillou, vous étiez hier soir à Geoffroy Guichard.
Malgré un cordon de stadiers, des centaines de spectateurs cagoulés et masqués ont envahi la pelouse au coup de sifflet final. Fumigènes, feux d'artifice, les forces de l'ordre ont répliqué par des coups de matraque et des gaz lacrymogènes. Sofiane est l'un des membres de la sécurité du club stéphanois.
On a reçu des coups, mais bon, après, c'est comme ça. Après, les CRS sont venus et ils nous ont donné de l'aide. Et il y avait des enfants, des bébés, des nourrissons. Moi, j'ai vu un berceau et c'est malheureux, c'est abusé.
Les joueurs ont dû être exfiltrés pour regagner leur vestiaire. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur auxerrois.
J'ai flippé parce que j'ai pris, je sais pas combien de bombes lacrymogènes sur la gueule, donc je faisais que pleurer. Donc c'était compliqué parce que les joueurs ont aussi pris des bombes lacrymogènes.
Jean-Marc Furlan contraint de stopper net sa conférence de presse, un personnel de la sécurité ouvrant les portes de la salle de presse pour venir chercher des extincteurs. Déplorable pour Aziz, supporter des Verts.
Sachant qu'il y a des enfants, sincèrement, c'est déplorable. Ça fait énormément mal au cœur de voir le stade avec les supporters comme ça. C'est dur, ça fait peur là, ça fait peur.
L'AS Saint-Étienne a connu hier la 5e relégation de son histoire dans un véritable chaos.
Et dès la fin du match, les actionnaires de Saint-Étienne ont d'ailleurs annoncé la prochaine vente du club. Et on s'interroge ce matin, la France sait-elle gérer les supporters et les événements sportifs? C'est la question que va poser à 11h la nouvelle ministre des Sports. Amélie Oudéa-Castéra réunit la police, les autorités locales et les organisateurs de la Ligue des Champions. Après ce qui fait déjà polémique, la finale Real Liverpool samedi, un système de pré-filtrage à 200 mètres du Stade de France débordé, des bandes de jeunes escaladant les grilles, des autorités anglaises qui parlent de traitement brutal de leurs supporters et dénoncent une gestion calamiteuse. Le préfet de police Didier Lallement allume un contre-feu. Marion Ferrer, dans un courrier envoyé hier au ministère de l'Intérieur, il riposte et saisit la justice.
Ce dysfonctionnement, Didier Lallement l'impute à la présence de 30 à 40 000 spectateurs supplémentaires. Un chiffre impressionnant, difficile à vérifier. Des supporters, il précise, démunis ou en possession de faux billets qui sont arrivés en masse au point de contrôle, en plus des 80 000 personnes attendues. Parmi eux, je cite, 300 à 400 jeunes issus des quartiers sensibles de Saint-Denis. Cet afflux a provoqué ces mouvements de foule et poussé le préfet de police à lever un barrage situé sous un tunnel dans un goulot d'étranglement pour éviter, selon ses mots, un drame. C'est donc cette fraude massive qu'il dénonce et qui lui permet de saisir la justice pour déclencher une enquête. Du reste, pas question de remettre en cause le dispositif mis en place. Les 6 800 policiers et gendarmes prévus suffisamment autour du Stade de France et dans les deux fan zones, des sites où aucun incident majeur n'a été relevé d'après Didier Lallement.
La priorité est de cerner très précisément les dysfonctionnements, indique le ministère des Sports, qui ne veut pas que ça se reproduise pour nos futurs grands événements sportifs internationaux, à savoir dans un an la Coupe du Monde de rugby, dans deux ans les JO de Paris. Ce qu'on sait des événements au Stade de France, un article à lire sur franceinter.fr. Enfin, c'est toujours du football, mais du sport. Première division féminine, Lyon au sommet pour la 15e fois, victoire 1-0 contre le PSG qui termine deuxième.
Il est 7h05, le sommet européen extraordinaire sur l'Ukraine, Anaïs, s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles.
Les 27 réfléchissent sur l'aide à apporter, aide humanitaire ou financière. Hier, sur la question de l'énergie et le blocage hongrois, les Européens ont proposé d'exempter temporairement la Hongrie d'un embargo sur le pétrole russe. Mais au menu aussi aujourd'hui, menu copieux, un vrai tabou européen est en passe d'être levé, l'achat d'armes en commun. La Commission a présenté son plan il y a deux semaines, Angélique Bouin.
L'urgence, c'est d'abord de reconstituer les stocks d'armes épuisés par la guerre en Ukraine, de renforcer nos défenses aériennes et antimissiles jugées trop fragiles, en particulier dans les pays baltes, voisins de la Russie. Pour la Commission, le conflit met aussi en lumière nos manques de capacités pour les combats au sol, anti-chars, artillerie. Plusieurs capitales s'apprêtent à débloquer des milliards, sans rien que pour l'Allemagne. Et rien ne serait pire que de le faire en ordre dispersé, estime le diplomate en chef de l'Union européenne. Josep Borrell propose une task force pour identifier les besoins, puis coordonner les achats.
Pour dépenser mieux, il faut dépenser ensemble. Il faut dépenser parce qu'entre l'année 2008 et l'année 2014, on a passé par un processus de désarmement. Et maintenant, pour monter en gamme, il faut le faire d'une façon coordonnée. Si chaque pays européen augmente ses capacités militaires, chacun de son côté, le résultat serait un énorme gaspillage d'argent.
Pour pousser les États à collaborer, les armes développées en commun seraient exonérées de TVA. Inimaginable il y a encore quelques mois, tant la défense est un sujet de souveraineté. La Commission propose aussi de puiser dans le budget européen pour une première salve d'achat d'armes en commun de 500 millions d'euros. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adressera lui en visioconférence aux dirigeants européens au début du sommet. L'Ukraine affirme cette nuit avoir repris du terrain dans la région de Kherson. Des mots et de la compassion à défaut de pouvoir agir concrètement. Le président américain et son épouse Yara Uvalde sur le lieu de la tuerie de mardi. 19 enfants et leurs deux institutrices tués par un jeune de 18 ans. 3 heures passées aux côtés des familles éplorées. Reportage au Texas de Sébastien Paour.
Fleur blanche et tenue noire pour Joe Biden et sa femme. Le couple s'arrête devant les portraits grandeur nature des victimes grâce à les larmes aux yeux. Il est en deuil, nous sommes tous en deuil. Il montre sa compassion, qu'il a un cœur. C'est un père, un grand-père. Il aime les enfants et il sait à quel point ils sont importants. Je suis donc très heureuse qu'il soit ici. Nos élus du Texas nous ont laissé tomber. Ils continuent de faire ce que le Texas ne veut pas. Nous voulons un contrôle des armes. Mais pas eux.
We want it and they don't.
La foule interpelle le président et sa femme. Nous avons besoin d'aide. Nos enfants ne sont pas en sécurité. Mais le temps des questions, notamment sur les armes, viendra après pour Henri Becerra, pasteur venu de San Antonio.
This is a time of empathy.
C'est le temps de l'empathie. Nous avons besoin de pleurer, de nous prendre dans les bras, de prier pour montrer qu'on n'oublie pas Uvalde.
Uvalde is not forgotten.
Qu'elle est dans nos cœurs partout en Amérique.
Uvalde, you're in our hearts all across America.
Donc notre président a bien fait de venir ici.
For our president.
Mais en même temps, il y a beaucoup de questions sans réponse. Questions notamment sur le temps qu'a mis la police à intervenir dans l'école. Le département de la justice a annoncé hier qu'il ouvrait une enquête. Uvalde, Texas, Sébastien Paour, France Inter.
L'ouragan Agatha se dirige tout droit vers le Mexique, renforcé par une température de l'océan à 31 degrés. Il pourrait toucher terre en cyclone de catégorie 3.
Il est 7h09, encore un service hospitalier menacé de fermeture.
Et cette fois, on ne parle pas des urgences. 120 services d'urgence en grande difficulté dans tout le pays, mais bien d'un hôpital gériatrique de long séjour en plein cœur de la capitale. La collégiale commence à partir d'aujourd'hui à transférer ses patients vers d'autres établissements de la PHP. Victor Dolande.
La direction des hôpitaux de Paris estime qu'il n'y a pas assez de personnel pour prendre en charge les patients, une version que démentent les salariés.
Moi je pense que pour eux c'est pas rentable.
Herminia est aide-soignante à la collégiale depuis 36 ans.
Ça me déchire le cœur parce que je suis attachée à l'établissement, aux patients, aux collègues. collègues. Donc, oui, c'est difficile. On a vu la collégiale se dégrader au fur et à mesure des réformes que la PHP a mis en place.
Danielle, infirmière, regrette aussi amèrement cette décision.
La gériatrie, en général, on est toujours un peu la dernière roue du carrosse, ça c'est vrai. Je pense que les gens sont quand même touchés par ce qui se passe en gériatrie, parce que tôt ou tard, de loin ou de près, on est tous affectés par la personne âgée, parce que nous-mêmes sommes à même de devenir vieux.
Les familles des patients ont envoyé des courriers à la direction pour s'opposer à ces transferts, mais rien n'a changé. Frédéric Pantier est responsable CGT à la collégiale.
On peut pas d'un côté dénoncer ce qui se passe dans les EHPAD et de l'autre côté fermer des établissements publics du secteur sanitaire, c'est-à-dire ce sont des malades polypathologiques qui ont besoin de médecins, qui ont besoin de kinés. Nous, le secteur public, on perd de l'argent, c'est vrai, mais notre rôle n'est pas de gagner de l'argent, c'est de soigner les gens.
Le personnel pourra décider de suivre les patients ou de changer de service. Mais les soignants en sont persuadés, l'établissement ne rouvrira jamais ses portes.
Et la situation de la PHP, on en parlera avec son directeur Martin Rich. Il sera avec vous, Nicolas, à 8h20. Autre grand service public en difficulté, l'éducation nationale. L'Académie de Versailles organise un job dating à partir d'aujourd'hui pour recruter profs et infirmières. Explication dans une demi-heure. Autant de thèmes qui émergent peu. La campagne électorale législative débute officiellement aujourd'hui. Patrick Balkany saura s'il doit rester en prison à Fleury-Mérogis ou s'il peut sortir en liberté conditionnelle. Il était retourné en détention après ses nombreux manquements à son placement sous bracelet électronique. Le parquet estime que l'ancien élu Les Républicains n'a payé que 7 000 € sur les 4 millions de sa dette fiscale. Autre échelle, 150 à 300 millions d'euros de manque à gagner pour le fisc français, la somme que General Electric n'aurait pas payée. Selon le site d'investigation Disclose, le géant industriel américain aurait eu recours à l'optimisation fiscale entre 2015 et 2020 en transférant jusqu'à 800 millions de profits à l'étranger. Elles sont toutes là, les vedettes du tennis mondial, bien au rendez-vous des quarts de finale après Nadal et Djokovic qui s'affrontent demain. On n'attendait plus que le jeune Espagnol Alcaraz. Mission remplie hier soir. À 19 ans, il s'est qualifié en 3-7 et sera opposé à Alexander Zverev. Le sport est une fête, le théâtre en est une autre et le célèbre ce soir, grand retour de la cérémonie des Molières après 2 ans d'absence. 20 récompenses seront remises lors de cette cérémonie animée par Alex Vizorek. Alors que le théâtre Stéphane Capron se relève peu à peu des 2 ans de pandémie.
Les derniers chiffres du syndicat des théâtres privés font état d'une baisse de 15%. La fin du port du masque n'a pas eu d'effet concret dans les salles et les effets de la guerre en Ukraine se font sentir. Jean-Marc Dumonté est le président de l'association des Molières.
Il est évident que la guerre en Ukraine, qui nous plonge quand même dans une certaine forme de désespoir, n'est pas très propice à la légèreté et à la fréquentation de nos lieux. Il n'empêche que nos lieux ne sont pas vidés pour autant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un problème structurel de fréquentation, mais que parfois, quand l'actualité est aussi écrasante, aussi dramatique, aussi navrante, incontestablement, ça pèse sur le moral des gens et ça les rend un peu moins enclins à partir le soir fréquenter les théâtres.
Malgré cela, ce soir, la tâche d'Alex Vizorek sera de mettre de l'humour dans cette cérémonie.
Si on le fait en télé, si on le fait en prime time, c'est pour donner envie aux gens de venir au théâtre, donc ça doit être joyeux, ça doit être... Mais comme l'était Molière lui-même, il y a 400 ans, de se dire « je veux faire marrer tout le monde ».
Au jeu des pronostics, 2 spectacles tirent leur épingle du jeu et sont en tête avec 6 nominations chacun. Les gros patinent bien pour le théâtre public et comme il vous plaira, de Shakespeare pour le théâtre privé.
Et rendez-vous donc ce soir à 21h10 sur France 3.
Merci Anaïs Feuga. Le zoom dans 3 minutes. Sa Majesté Elisabeth, reine du Canada.